Belma, quand la guerre en Bosnie s'est déclenchée, tu avais 15 ans. Quand elle s'est terminée, tu en avais 19. C'était quoi ton quotidien pendant cette période-là?
C'est très, très difficile de parler d'un quotidien parce que ça changeait un peu tout le temps par rapport au fait que la maison était bombardée, une ensuite une autre, les appartements dans lesquels on pouvait se réfugier. Et bah, c'était de survivre, vraiment dans le premier sens du terme, de se débrouiller pour la nourriture.
Et comment on fait justement quand on est dans une ville et qu'il n'y a pas vraiment de nature autour pour cultiver ou pour trouver à manger?
Et bah, on attend que l'aide humanitaire arrive, qui est toujours très précaire aussi. Ou encore, on est allé souvent dans un village, enfin une petite ville, en dehors de Sarajevo. C'est la seule qui était accessible pendant la guerre. Et pas tout de suite, c'était peut-être une année après le début. Et on devait traverser l'aéroport pour accéder à cette ville. Et quelqu'un avait une très bonne idée de faire un tunnel, qui était un tunnel sauveteur, si je peux dire ça comme ça, mais qui est aussi un tunnel effroyable, parce qu'il fallait traverser dans le noir, dans l'humidité, et chercher de la nourriture qui existait, qu'on pouvait acheter à un prix abordable, ça serait trop dire, mais on pouvait acheter quelque chose. Parfois, j'achetais par exemple 3 coquilles d'œufs. Mais en sortant du tunnel, nous accueillait la mafia, les profiteurs de guerre, à qui on nous donne un tiers. Donc, c'est beaucoup. Puis ensuite, les œufs, bah, ce n'était pas pour nous, ce n'était pas pour la famille, c'était pour changer les œufs pour du riz ou pour de la farine, pour des aliments plus modestes et qui pourraient nous nourrir plus longtemps peut-être. Chercher de l'eau aussi, bien sûr, c'était au début très difficile à trouver les ressources à ce niveau parce que naturellement, Sarajevo, c'est une ville et nous étions habitués à avoir de l'eau et de l'eau chaude aussi parfois, pas toujours, mais quand même avoir de l'eau dans les appartements. Et ensuite, il fallait chercher de l'eau dans des sources qui étaient très loin ou alors encore casser les tuyaux de...
De canalisation.
Oui, voilà, récupérer la pluie, faire des choses comme ça. Ce n'est pas ça qui est le plus effroyable. Ce qui est le plus effroyable, c'est ce risque quotidien qu'on prenait à attendre l'eau dans les queues interminables. Et pour une fille de 16, 17 ans que j'étais à l'époque, c'était très difficile de rester pendant des heures à attendre ces 20 litres, ces 40 litres maximum qu'on pouvait porter. Et puis, de temps en temps, au milieu de ce moment d'attente, bah, ils commencent à bombarder. Et il y avait des morts, des blessés. Il faut se débrouiller pour les sauver. On a peur, naturellement, mais il faut quand même continuer à attendre son eau, parce que sinon, on ne survit pas. Et je trouve que c'est plutôt ce côté-là qui est terrorisant, parce que tu dois rester et attendre ton eau.
Et dans cette situation métaphysique, comme tu dis, toi, malgré tout, tu as pris le temps de faire du théâtre. Et des gens venaient vous voir, voir la
Oui.
troupe. Comment c'est possible ça?
Eh ben, je pense que c'est ça un petit peu qui a sauvé tout le peuple de Bosnie, de Sarajevo notamment. C'est cette force de âme, d'esprit, comme on veut l'appeler, cette volonté, cet espoir débordant que les gens des Balkans ont en eux, cette joie de vivre et optimisme. Et je pense que cette guerre, autant destructrice soit-elle, elle a été moteur aussi dans le sens créatif du terme. Et je n'ai pas été la seule. Beaucoup de mes amis ont fait de la musique, ont écrit, ont fait des choses incroyables. Et voilà, j'ai fait du théâtre dans un théâtre amateur qui s'appelait Lola et qui prend une place particulière dans mon cœur parce que ça a été une survie mentale et une survie, une nourriture pour l'âme.
Dans un instant, on parlera flamenco avec Belma et une de ses élèves qui la connaît depuis ses tout débuts en Suisse.